Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
L'émission du jour qui va se concentrer sur une vraie actualité de la BioVallée, ce qui est assez rare quand c'est nous, Radio Diwa, qui produisons l'émission. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Éléonore Henri de Fraan, bonjour.
Bonjour.
Accompagnée de Lise Barnéou, bonjour.
Bonjour.
Et nous allons parler de cette exposition que BioVallée vous a commandée, en fait. Il s'agit de Visage d'une vallée pionnière, en ce moment même à la cave de Digeaillance. Voilà, juste avant que l'on continue, il me reste à dire que vous êtes bien à l'écoute de RDIWA 107.5 FM et de Radio Saint-Ferréol 94.2.
Vous avez dit une petite bêtise, c'est-à-dire que ce n'est pas une commande de la part de BioVallée. Ah. C'était une initiative personnelle d'Éléonore et moi. Mais nous avons reçu pour ce travail une subvention de la part de BioVallée.
Ah bah très bien. Donc nous sommes d'entrée dans le vif du sujet. Est-ce que vous voulez vous présenter l'une et l'autre un petit peu pour que les auditeurs...
Moi je suis photographe indépendante. Je fais partie d'un collectif de journalistes associés dans une démarche documentaire. Donc on produit des expositions sur des sujets au long cours qui nous semblent intéressants.
Ok.
Et donc puis, voilà, ça c'était Léonore. Et donc moi, Lise, je suis journaliste indépendante et je suis spécialisée dans des sujets environnementaux et scientifiques. Et je travaille pour la presse magazine essentiellement, pour Science et Vie, pour la recherche, pour Ça m'intéresse ou pour la Cité des Sciences ou Géo. Voilà, c'est ce genre de magazine parisien et je vis sur Die.
Alors, est-ce là votre connexion avec le désir de produire un sujet sur cette vallée pionnière ?
Oui et non. En fait, la genèse du projet, c'est surtout Éléonore qui était à l'origine de l'envie de faire quelque chose sur la région. Elle venait souvent dans le coin et elle voulait photographier en fait, cette ambiance particulière au début du Diwa. Et puis moi, je ne savais pas trop par quel angle capter ce qu'elle trouvait aussi particulier dans le coin. Et puis est venu ce projet BioVallée qui m'intéressait particulièrement. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, banco, on va essayer de travailler sur ce projet qui était... ça fait 2 ans qu'on est dessus, donc ça a commencé.
Éléonore, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que tu entends par ambiance particulière du Diwa ou de cette vallée ?
Disons qu'ici, il y a une concentration d'initiatives citoyennes, d'alternatives d'un nouveau monde lié au développement durable et qui me semblait intéressant de montrer des exemples concrets d'un changement possible.
C'est-à-dire que c'est simplement parce qu'ici, il y a des gens qui sont dans une démarche pionnière que tu décidais de t'intéresser à ça.
Je pense qu'au tout début, quand Éléonore voulait faire quelque chose sur ce territoire, ma crainte, c'était de tomber dans le cliché. Et on ne savait pas exactement par quelle boule prendre. Au début, Éléonore, tu te souviens, tu étais assez attirée par les aspects décroissance. Et moi, j'étais très perplexe parce que je me suis dit, je n'ai pas envie de faire quelque chose sur la décroissance pour vraiment tomber dans le panneau du cliché des babes de Die. Ça ne m'intéressait pas comme travail. Et donc, on a vraiment réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait montrer qui soit effectivement au-delà du cliché, mais qui révèle la vraie dynamique de ce territoire, à savoir pas uniquement des babes qui pourtant sont aussi à l'initiative d'énormément d'associations, mais aussi ces pionniers, ces pionniers du bio, mais ces pionniers aussi des entrepreneurs qui sont à la recherche d'une façon de faire un peu alternative, des recherches en termes d'énergie, des recherches en termes de transport. Donc voilà, on s'est dit, en fait, on est parti du principe que la BioVallée n'était pas née ici par hasard et qu'on avait envie de mettre en valeur celles et ceux qui, qui en étaient en fait à l'origine. Alors, ce n'est pas forcément des pionniers, ça peut être des gens qui s'y sont mis sur le tard aussi, mais en tout cas, c'est ceux qui font vivre au quotidien la Biovallée concrètement.
Donc là, on parle vraiment de ces acteurs, quasi ceux qui sont visibles. Et justement, pour qu'on revienne un petit peu sur cette population que tu as un peu citée, enfin voilà, manière peut-être péjorative pour certains ou réelle pour d'autres, quand même, c'est parce que ces gens vivent de cette manière-là que peut-être le reste de ce qui a été entrepris, des actions que vous avez mis en avant, existe.
Alors, moi, je pense qu'il ressort pas mal de notre petit voyage à travers la Biovallée. C'est que c'est assez incontestable qu'il y a eu un rôle des néo-ruraux dans cette dynamique. On a rencontré beaucoup de personnes qui étaient venues ici après avoir vécu en ville et qui venaient ici pour un changement et qui, du coup, ont été vraiment moteurs dans des initiatives qui changeaient par rapport à ce qui était fait d'habitude et qui, d'ailleurs, ils n'étaient pas forcément bien vus au début quand ils ont commencé à faire autrement. Et puis petit à petit, ils ont réussi à convaincre. Et ce qui ressort aussi, c'est que finalement, ces gens-là, ils n'auraient rien pu faire sans les locaux qui, eux, avaient le savoir-faire. Là, je parle notamment, par exemple, pour l'agriculture. Les néo-ruraux avaient peut-être des idées de faire autrement, mais sans l'aide des locaux, ils n'y seraient probablement pas parvenus. Donc c'est vraiment un vrai mélange entre des néo-ruraux qui avaient des idées nouvelles sur la façon, leur envie de vivre, et puis les locaux qui, eux, savaient vraiment adapter cette façon de vivre au terroir.
Donc c'est passé par une phase d'acceptation des uns et des autres.
Ah oui, et je pense que, bon, on n'était pas là pour en témoigner, mais il y a eu un moment où c'était très compliqué dans les années, pour l'agriculture par exemple, clairement, dans les années 80, ceux qui se lançaient dans le bio, ils étaient vus comme des fous, et même aucun soutien, ni de la part des politiques, ni de la part des populations locales. C'est venu que, je pense, voilà, l'acceptation, vraiment la grande acceptation, ça date de 10-15 ans, pas plus.
Soyons maintenant concrets sur cette exposition. Vous avez mis quoi en avant alors ?
Bon, alors on a sillonné le territoire pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. On a vu beaucoup, beaucoup d'initiatives. Et il a fallu faire un choix parce qu'une exposition, ça ne peut pas être quelque chose d'exhaustif. Notre exposition, c'est une exposition sur des bâches. Donc on ne pouvait pas imaginer 50 bâches. donc il y a une bâche par initiative. Donc on a choisi, au final, on a dû faire une sélection de 12 initiatives. Alors le choix, il s'est fait de plusieurs façons. D'abord, on voulait couvrir toutes les thématiques du développement durable, l'agriculture, l'énergie, l'alimentation, l'éducation, les transports, voilà.
Et puis, donc vous en avez sorti 12, la thématique, c'est ça ?
Non, pas 12 thématiques, on a sorti 12 initiatives. Mais après, dans toutes les initiatives, des fois, les thématiques se regroupent. Par
D'accord.
exemple, on a pris comme initiative Habitaire. Je crois que vous avez déjà parlé d'Habitaire sur Erdiwa. Mm-hmm. Donc là, il y a à la fois les bâtiments, il y a aussi de l'énergie, il y a aussi une réflexion sur l'entraide. Enfin,
dimension sociale, etc.
Voilà, généralement, les bons projets de développement durable mêlent les différentes thématiques du développement durable. Mais disons qu'on a essayé d'avoir des thématiques fortes. On a quelque chose sur l'agriculture, on a quelque chose sur des entreprises, on a quelque chose sur l'énergie, on a quelque chose sur les transports. Donc ça, c'était un choix déjà qui nous a un peu guidés sur notre sélection. Ensuite, on avait envie que ces initiatives soient bien réparties sur le territoire de la Biovallée.
Donc là, on est sorti du Diwa. Hein.
Ah oui, on est bien sorti du Diwa. Dans le Diwa, on a, sur les 12, je crois que ça s'est assez bien réparti. On doit en avoir, peut-être...
La moitié.
Oui, si on compte le Haut Diwa, après on en a, voilà, si on divise la Biovallée en Haute Vallée et Basse Vallée, on en a 6 dans la Haute Vallée.
Avec la coupure à partir de Cré, quoi, c'est ça ?
Voilà,
de Saillant.
Ou de Saillant,
ouais.
voilà, et puis enfin, il y avait un choix un peu plus peut-être esthétique, ça c'est peut-être plus Éléonore qui pourra le raconter, mais il fallait aussi que les couleurs, le style des photos ne soient pas trop redondants d'une initiative à l'autre pour qu'on puisse, pour que celui qui regarde notre exposition ne s'ennuie pas.
Alors parlons de cet aspect esthétique, parce qu'une exposition, justement, ça se présente. Donc déjà, des bâches, c'est un drôle de concept. Enfin, moi, je m'imagine la bâche agricole d'entrée, donc c'est peut-être pas bon, mais on va dire que c'est un support plastifié. Donc quelle est cette esthétique ?
Donc en fait, au collectif Argos, on a développé un principe d'exposition itinérante, parce que notre envie était de sortir nos photos des galeries ou des lieux habituels où on présente de la photo, mais plutôt d'être un peu comme des sortes de journaux muraux qui puissent aussi bien aller sur les places publiques que dans d'autres lieux institutionnels ou autres. Et donc l'idée, c'était de faire quelque chose de mobile et qui soit facilement accrochable en extérieur comme en intérieur. Donc on était parti sur cette idée de bâche. On avait déjà fait plusieurs expositions sur cette forme-là. Et avec un travail, donc on s'associe à un graphiste qui met en scène le contenu journalistique et photographique sur un principe de récit. Donc là, notre idée de départ, c'était de faire un petit carnet de route, de présenter un petit peu comme... à chaque fois une carte postale de l'initiative qu'on avait choisie pour présenter un petit peu, donc faire un carnet de route sur le territoire.
Donc il y a plusieurs photos par exemple par bâche entrecoupées du texte quoi.
Bon, le texte est généralement pas coupé par les photos, mais effectivement il y a deux, trois, jusqu'à six photos par initiative. Et il faut aller la voir parce qu'on ne va pas vous la décrire comme ça.
Voilà.
Par contre, peut-être juste préciser pour que ce soit raccord, parce qu'effectivement, là, quand on parle de bâches, on se dit, oula, produits pétroliers sur la Biovallée, rien à voir. Non, c'est des bâches faites avec des matériaux recyclables et des encres végétales.
J'imagine. D'ailleurs, on pourrait aborder ce point. Hein, comment vous avez réussi à vendre donc, ce concept à Biovallée ou à obtenir une subvention pour vous aider à ça, et c'est d'ailleurs forcément en passant par ce type de bâche déjà, parce que ce ne serait pas passé sinon, je pense.
Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, je pense que Biovallée est maintenant dans une phase où ils ont conscience de l'importance de communiquer sur ce qu'ils font, parce qu'ils ont déjà fait des choses, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 2 ans. Et donc, ils ont une
nouvelle politique peut-être.
Une politique de communication avec un peu d'argent derrière, et ils étaient en attente en fait de projets de communication autour de leur de cette initiative. Donc nous on a présenté le projet à l'automne, il me semble, au printemps dernier peut-être. Enfin bon, il y a 1 an à peu près. Et l'idée était leur a plu. Je pense que ce qui leur a plu aussi, c'était cette l'objectif de ne pas faire seulement de la communication pour les gens concernés ou ceux qui sont déjà au courant, mais de faire sortir en fait cette initiative en dehors du territoire Biovallée et peut-être d'aller inspirer d'autres territoires.
C'est-à-dire que maintenant vous allez la faire tourner cette expo ?
Oui, voilà, c'est l'idée. Donc après avoir circulé sur le territoire, donc là elle sera à la cave Jaillance jusqu'au 12 mai. Et ensuite, c'est prévu qu'elle aille à Livron et puis sur l'écocide de Heure. Ensuite, donc, l'idée, c'est qu'elle puisse sortir du territoire et aller continuer sa vie et surtout être présente sur d'autres territoires nationaux.
À l'occasion de festivals ou d'événements particuliers dédiés à l'environnement ou à l'éducation ou au développement durable.
Et ça, c'est vous ou ce collectif Argos qui allez la placer, quoi.
Tout à fait.
Donc là, c'est tout bénef pour Biovallée, en fait. Est-ce que vous vivez de ça, de placer votre expo ?
Disons que...
Malheureusement, non. Je crois qu'on peut l'affirmer. On ne va pas vivre... cette exposition ne nous aura pas enrichi, si c'était ça votre question. On n'a pas... Voilà, on a pas perdu de l'argent non plus. On a travaillé comme si j'avais fait un article, mais la location, elle n'est pas forcément très élevée. Il y a des frais aussi pour l'assurance, pour les transports. Et donc, a priori, on ne pense pas qu'on va nous arracher cette exposition dans toutes les régions de France. Donc voilà, c'était surtout une envie, en fait. C'était plus une envie de faire connaître cette initiative et de travailler ensemble et de mettre en valeur ces gens que... que la perspective de gagner de l'argent en louant cette exposition.
C'était pour faire une opposition entre une démarche effectivement un peu lucrative et une vraie démarche de soutien ou de mise en avant, puisque si là, effectivement, ça ne vous rapporte rien, et juste vous avez été financé pour la réaliser et qu'après, pour la faire tourner, c'est presque à votre envie, c'est un travail bénévole, quoi.
Oui, on peut presque. Voilà. On peut presque. Disons... Bon, bénévole, c'est peut-être. Ça nous coûte pas de l'argent, voilà. Mais après, comment tu...
Non, mais disons que c'est vrai que ma démarche journalistique, elle est d'une certaine manière engagée. Donc, au Collectif Ergo, c'est vrai que nous travaillons beaucoup sur des problématiques environnementales et que là, de proposer quelque chose sur des solutions qui soient nationales en plus, me paraissait une perspective importante. Et c'est un petit peu dans cette démarche aussi personnelle et individuelle.
Engagée.
Et une action militante.
Voilà.
Voilà. Bah, c'est le message qu'il fallait qu'on entende. Comme normalement dans cette émission, il faut qu'on soit un petit peu concret. Évidemment, vous n'avez pas trop envie de dévoiler l'exposition parce que il faut aller la voir, d'accord. Mais on a compris au niveau matériel. Alors, soit vous nous dites comment vous avez travaillé au niveau technique, soit vous nous donnez maintenant une des initiatives, par exemple.
Peut-être comment on a travaillé. Notre idée, c'était d'approcher ces initiatives à travers les hommes et les femmes qui les font. Donc moi, personnellement, en tant que journaliste, donc pour écrire mes textes, j'ai eu envie d'écrire ces initiatives à travers des portraits, de m'attacher à un ou deux personnages qui étaient un peu centraux autour de cette initiative, et à travers eux, de raconter non seulement l'initiative, mais aussi les espoirs et puis les difficultés de mettre en œuvre cette initiative. Donc ça peut être un peu mal perçu, parce que généralement, c'est souvent des initiatives collectives, et c'est parfois dommage de mettre une ou deux personnes en avant alors que c'est une action collective. Mais voilà, ça a été mon choix dès le départ de m'attacher à une personne, parce que généralement les textes sont plus agréables à lire quand c'est vraiment incarné. Donc ça, c'était pour la technique, en tout cas en termes de texte, c'était comme ça.
Et en termes de photos, c'est quoi? C'est ces gens en situation, ces gens pris sous des angles artistiques, enfin... Mmh.
Disons que oui, c'est vrai que ma spécificité, c'est de vraiment montrer des situations du quotidien, de la vie, et puis après aussi du lien avec la nature, des personnes en action dans leur métier, dans ce qu'elles font.
Quand vous travaillez au collectif Argos, c'est toujours de cette manière-là? C'est ce que vous proposez en principe?
Tout à fait. Nous travaillons toujours sur l'idée de partir d'histoires humaines.
Bon, c'est pas... ouais,
Vous en voulez une, je crois.
Non, bah ouais, on va en avoir une, mais j'allais plutôt dire, est-ce que c'est pas à un moment donné ce surplus de personnalisation et tu commençais à dire un petit peu qu'il y avait un défaut, enfin justement, que ça pouvait poser problème, mais jusqu'à quand c'est accepté, ça? Parce que on a parfois justement pas du tout envie d'être personnalisé sur quelque chose qui est collectif, quoi.
Bon, généralement, je pense que les gens là qu'on a choisi de mettre en avant, je pense pas qu'ils étaient opposés à ça, parce qu'au fond, ils voient bien qu'ils ont eu un rôle moteur dans cette initiative, et je pense qu'ils ont compris que notre objectif, c'était de les transformer en démonstrateurs et de faire en sorte que d'autres personnes puissent s'identifier à eux et peut-être proposer ce même genre d'initiative.
C'est un peu comme dans la publicité, il faut que ça ressemble le plus possible aux consommateurs, sinon...
Voilà, c'est pour ça qu'on a des jeunes, des vieux, des agriculteurs, des entrepreneurs. Exactement, en fait, on est des communicantes. On a travaillé pour Coca-Cola juste avant.
Très bien, donc je vais censurer ce passage.
Ah mince, j'ai dit une marque.
Non, c'est pas grave. On a encore le droit ici en radio locale. On peut même dire Bio-Vallée plusieurs fois. Donc, eh bien, oui, alors donnez-nous en une. On reste le plus anonyme possible si vous voulez, mais voilà, qu'on comprenne.
Bon, on peut peut-être donner...
Tu as déjà parlé d'Habitat.
Oui, non, mais peut-être une qui nous a vraiment tenu à cœur. Et hier soir, on était sur place pour leur montrer un peu enfin les photos d'Éléonore, parce qu'évidemment il y a eu une sélection drastique pour la pour l'exposition. C'est le
pardon sélection qui est faite par qui?
La sélection de photos par nous-mêmes. Par nous. Hein, nous sommes les seuls aux manettes. Et donc cette initiative, en fait, c'est pas une initiative, c'est un village, et c'est le village de Vacher-en-Quin. On a choisi ce village parce que pour plusieurs raisons, mais ce qui nous y a amené, c'est un petit peu l'origine de l'association et de la fondation Terre de Liens, qui vise à récupérer de l'épargne de citoyens pour acheter des terres et les louer en fait à des agriculteurs sans terre spécialisés dans le bio.
Les sauvegarder souvent dans un premier temps.
Les sauvegarder, ça suffirait pas, il faudrait quand même qu'ils soient travaillés, parce que sinon ça serait dommage. Donc ça nous plaisait bien, et c'est vrai qu'on savait que c'était issu du territoire, et donc que le président habite à Vacher-en-Quin. Et puis on a vite compris qu'en fait Vacher-en-Quin avait eu une histoire assez fabuleuse. Et c'est un village qui a failli complètement disparaître, enfin disparaître en tout cas, qui était vraiment menacé de désertification dans les années 70, qui voit l'arrivée de couples de Hollandais complètement... enfin, qui n'avaient jamais mis la main dans la terre. C'était des gens qui étaient habitués aux bibliothèques, pas du tout à la terre, et puis qui ont eu envie de faire ce retour à la terre au moment des années 68-70. Et puis petit à petit, aujourd'hui, il y a quatre exploitations, toutes en bio, qui se partagent ce village. Presque toutes les maisons sont en train d'être construites. Enfin, on avait l'impression que c'était un joli success story. Et que Terre de Liens était née de cette success story. Donc voilà, ça c'est une de nos initiatives qui nous a beaucoup plu. Et donc moi je l'ai écrite à travers le personnage de Sjoerd Wartena, qui est le président donc de Terre de Liens.
Voilà, comme ça donnera envie aux gens quand même d'aller à la rencontre peut-être de gens qu'ils n'ont pas revus depuis quelques temps. Ou qui ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y a quand même encore ça, même dans le Diois, hein, je veux dire, même dans le territoire de la Biovallée, on ne sait pas tout ce qui se passe.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule.
Capsule spéciale Argos. Qui est à l'origine de ce collectif Argos, ou qui le compose?
Donc, le collectif Argos est né en 2001. On est 11 journalistes engagés dans une démarche documentaire. Des photographes et des rédacteurs principalement. Nous avons un dessinateur de reportage qui vient de nous rejoindre également. On est 5 photographes, 5 rédacteurs et un dessinateur.
Que propose ce collectif Argos?
Au-delà de notre travail d'indépendant avec la presse magazine, Nous sommes réunis dans une démarche documentaire, donc dans l'envie de raconter des histoires au long cours sur des problématiques environnementales et sociales.
Alors, combien coûtent vos services? Comment ça se passe? Qui peut vous commander?
Qui peut nous commander des choses? Toutes les entreprises éthiques, déjà. Disons que... Nous montons essentiellement des projets donc sur des sujets qui nous interpellent, qui nous intéressent. Mais effectivement, nous répondons également aussi à des commandes institutionnelles ou pour des entreprises.
Parlons un petit peu de ce qui peut être difficile ou de ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous avez des points de blocage, des trucs sur lesquels vous êtes régulièrement bloqué, par exemple, dans votre démarche journalistique?
C'est surtout... une problématique de financement, surtout. Disons que nous sommes un petit peu comme des petits producteurs également. Nous sommes tout le temps en train de... Nous travaillons sur toute la chaîne. Donc, on est dans la recherche de financement pour monter nos projets. On prépare nos enquêtes. On est sur le terrain. On finalise. On commercialise. Donc voilà.
Oui, je crois que ça c'est un frein, l'aspect financier. C'est vrai qu'aujourd'hui et surtout depuis un ou deux ans, c'est un gros frein pour nous en tant qu'indépendants. Des indépendants qui souhaitons réaliser des enquêtes au long cours et donc qui nous demandent quand même du temps avant de réellement publier, donc de gagner de l'argent avec de vivre avec ce qu'on fait. Et moi personnellement, en tant que journaliste indépendante, j'ai clairement remarqué depuis un ou deux ans, non, disons vraiment depuis un an, qu'il n'y a vraiment plus d'argent pour faire des reportages et des enquêtes au long cours. Il y a de l'argent pour publier des articles, c'est-à-dire si ça me prend 3-4 jours, voilà, ça c'est rentable. Mais pour faire un vrai travail de fond qui demande 2-3 semaines d'enquête, des déplacements, parfois des déplacements en avion si c'est en dehors du territoire, ça devient vraiment compliqué. D'où la nécessité aujourd'hui pour des projets comme le nôtre, l'exposition Visage d'une vallée pionnière, d'avoir en fait des mécénats privés. Donc on a eu la Biovallée, mais on a aussi eu une subvention de Léa Nature, du groupe Léa Nature, ainsi qu'une subvention de la Dreal. Et c'est vrai que sans eux, ce projet n'aurait pas pu aboutir.
Et combien ça coûte concrètement, ce projet-là particulièrement, cette exposition?
Alors on l'a chiffré à environ 30 000 euros, je me trompe pas, Éléonore?
Oui.
J'ai pas le chiffre exact en tête, mais voilà, tout compris, c'est-à-dire nous payer nous pour le travail qu'on a fourni, payer
le
aussi
travail
le graphiste qui a mis en page, en scène toutes ces bâches, et ensuite les frais inhérents à ce reportage, et puis ensuite les frais aussi de l'impression des bâches et
les pellicules,
du transport,
voilà. Les pellicules, bon, malheureusement, on n'est plus sur les pellicules, mais...
bon, vous auriez pu. On termine par qui contacter. Alors, comment est-ce qu'on vous trouve l'une et l'autre?
Sur www.collectifargos.com.
Et voilà. Là, vous allez sur vous tapez Biovallée vous avez un petit... Il y a un petit moteur de recherche au sein de votre page internet et vous trouverez du coup toutes les infos
sur l'exposition.
Sur notre exposition.
Et je parlais même personnellement, si des gens maintenant qui ont entendu cette interview ont envie de vous contacter.
Et ben sur le site, il y a le contact d'Éléonore. Et quant au mien, vous pouvez me croiser sur les marchés de Die. N'hésitez pas à venir me proposer d'éventuels sujets intéressants.
Et cette émission a été écoutée de manière internationale. Hein, donc, alors voilà, venez à Die. Comme ça vous permettra de visiter quand même.
Capsule.
Merci à toutes les deux pour la présentation de cette exposition Visage d'une vallée pionnière. On le rappelle, elle est en ce moment même à la cave de Die Jayance et jusqu'au 12 mai. Et puis après, elle ira dans l'ordre à Eure ou à Livron?
Dans l'ordre à Livron et ensuite sur l'écocide d'Eure.
Alors elle sera où à Livron?
On ne sait pas encore, on vous en informera par voie de presse et par affichette.
Bien, et puis après dans l'écocide d'Eure et puis plus tard un peu partout en France. Puisque c'est ça l'objet. Merci Éléonore, Henri Defraon et Lise Barnéou.
Merci.
Merci, à bientôt.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Top. Un programme soutenu par Biovallée.